Ne manquez pas le balado « Relève-toi », présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marcellet reçoit l'animatrice et conférencière Josie Boudreau.
On avance. C'est que, comme j'ai dit, je regarde jamais en arrière. On avance avec ça.
Comment ça va pour vrai? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous au 1-866-APPEL. Ensemble, tissons l'espoir.
C'est 23.
Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget.
Et bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle édition d'une tasse de tech, la balado techno la plus, je veux pas dire vieille, mais certainement une des vétérans du secteur de la balado techno. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal.
Bonjour Alain, content de te parler. On a pris une petite pause avec la semaine de relâche. Là, on se retrouve pour parler de techno. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Bien hâte de raconter ça avec toi.
Très vrai. Moi, j'en ai profité pour passer une petite COVID familiale. Donc, ça, c'est une pause nécessaire. Mais c'était pas rien de grave, évidemment. Mais c'est la nouvelle réalité, n'est-ce pas, quand ça arrive. On sait quoi faire maintenant. Mais ça exige de se débrancher un peu de temps en temps. Est-ce que tu nous présentes, nous remercies, nous salues nos commanditaires, Pascal?
Avec grand plaisir, Alain. On va remercier TELUS, Planob, Jura. Si vous aimez le café, vous aimerez la Jura E8, qui est une machine entièrement automatique, qui permet de transformer du café en grain ou pas, en boisson caféinée ou pas, de votre choix, avec du lait ou non. Tout ça avec un seul bouton. Vraiment sympathique. Il y a un écran qui permet de choisir facilement sa boisson. On peut choisir la quantité précise de lait, d'eau ou de café qu'on veut. La force de son café, par exemple. Il y a un filtre intelligent pour faciliter le nettoyage, pour pas qu'il y ait de tartre qui s'accumule dans le réservoir. Vraiment fun. Le mécanisme à lait aussi. Un petit nettoyage avec les enzymes. Et si jamais vous passez dans le coin de la salle de montre de Edica, qui distribue les machines au Québec, allez jeter un coup d'œil, ils vont vous offrir un café et vous allez voir que c'est comme un puits de Formule 1 et c'est très sympathique.
Plan Hub, en passant, qui vaut la peine d'être visité régulièrement. Maintenant que le CRTC a annoncé, il y a pas tellement longtemps, il y a moins de 10 jours, là, que les prix de gros allaient être revus du côté de l'Internet résidentiel pour être rabaissés à ce qu'ils étaient avant qu'ils soient remontés. Donc, il y aura peut-être des fournisseurs qui vont vouloir revoir à la baisse le prix de leur service Internet pour la maison. Allez jeter un coup d'œil de temps en temps, parce que ça risque de bouger rapidement dans ce marché-là.
Ben oui, puis si je peux me permettre, Alain, la chose, le conseil qu'il faut répéter aux gens, c'est n'hésitez jamais, jamais à composer le 611.
Ah, il faut, ben oui.
C'est quoi le 611? Ben, c'est le numéro de votre opérateur cellulaire, puis demandez-leur à quel rabais vous avez le droit, quel forfait, comment ça peut baisser. Moi, j'ai appelé, ça m'a coûté 10$ de moins par mois, ils m'ont augmenté ma vitesse, puis j'ai un nouveau modem inclus. Fait qu'à chaque fois que j'ai appelé, ça prend quelques minutes, ça pas besoin de vous engueuler.
non, on le souhaite pas.
Non, c'est drôle, j'imagine qu'il faut être très agressif. J'imagine que ça doit marcher mieux, mais t'as pas besoin. T'as juste besoin de dire c'est quoi les promotions, c'est quoi les services, qu'est-ce que j'ai, est-ce que j'ai droit à un nouvel appareil, est-ce que j'ai fini de payer un appareil, mon tel, on va vous baisser votre tarif. Et voilà, très toujours avantageux. Une tasse voilà. De tech, la balado qui vous fait économiser des sous ou augmenter votre vitesse de votre forfait.
Ben, pourquoi pas, je veux dire, on est là pour ça, c'est un service public quand même, c'est à ça que ça sert. On va parler d'actualité, parce qu'il y en a eu beaucoup, tu le disais tantôt, juste pour rappeler que les actualités d'une tasse de tech sont présentées par InfoBref. Si vous voulez savoir chaque matin ce qu'il y a d'important dans l'actualité, abonnez-vous à l'infolettre matinale InfoBref. Chaque jour, l'essentiel des nouvelles dans votre boîte de courriel. Essayez ça, InfoBref matin, c'est gratuit, infobref.com. Visiter ça. C'est aussi un endroit où de temps en temps je fais des essais de produits. Donc c'est là où j'expose davantage mon expertise en bidouillage de gadgets. Je sais pas comment dire ça autrement, mais ça arrive. Parlant de gadgets, oui, ça a fait jaser hein, ça dans les derniers jours. Le fameux Space Function, je sais pas comment il l'appelle là, de l'appareil photo
des téléphones Samsung.
Space Zoom, voilà.
Le Space Zoom du Galaxy S23.
C'est en fait un petit peu une façon pour Samsung de tricher là.
Ben oui, et c'est très, très drôle parce que j'ai vu ça apparaître dans son dernier Galaxy S23 Ultra. Samsung a annoncé son Space Zoom qui permet de prendre des photos superbes de la Lune. Et il y a quelqu'un qui s'est amusé sur Internet à prendre une photo d'une image qui avait été volontairement floutée. Donc, c'est une image qui était floue au départ. Il l'a pris avec le Galaxy S23 et mystérieusement, les cratères de la Lune sont apparus sur la photo.
Étonnamment trop net, ben oui, c'est ça.
C'était trop net. L'appareil n'a pas seulement pris plusieurs photos, combiné les détails pour s'assurer d'avoir le meilleur de plusieurs photos, préciser la... Non, il a inventé les détails qui n'étaient pas sur la photo de la Lune floutée volontairement originale. Donc, le mini-scandale, ou du moins ce qui fait jaser, c'est est-ce que c'est légitime ou non? On sait que depuis des années, on en parle, les capacités des appareils photo de téléphone dépassent grandement les capacités physiques de l'appareil. Ils ont des petits capteurs, ils ont des petits objectifs et pourtant, ils prennent des photos très similaires à celles des appareils beaucoup plus gros, avec des beaucoup plus gros capteurs. Mm-hmm. C'est parce qu'on utilise le traitement des données. On combine plusieurs photos, on annule le flou, on utilise l'intelligence artificielle pour raffiner les traits de quelque chose qui fonctionne, ça nous aide à tirer la plus belle photo dans des circonstances qui sont pas faciles. Mais là, dans le cas de la photo de la Lune de Samsung, on triche pas mal. On ajoute des détails. On prend des photos d'une Lune qu'on a mis dans son intelligence artificielle. Si vous regardez, il y a toute une saga là-dessus sur Reddit. C'est un type qui s'appelle « I break photos ».
Non, oui, break des téléphones, c'est ça, non?
Oui. Exactement. Ouais. Parce que c'est break des photos. Moi, ça m'a rappelé la saga du mode lune du P30 de Huawei, mm-hmm. qui avait sensiblement la même possibilité. Les photos de la lune étaient très, très belles, mais tu soupçonnais qu'il y avait des petits détails probablement.
Il se passait des choses en arrière-plan. Ben oui.
C'est ça. Donc, on ajoute des informations qui n'existent pas. Si le ciel est nuageux, on peut prendre une belle photo de la Lune, mais on n'aura pas les cratères extrêmement détaillés. C'est pas possible, à moins qu'on mette un calque de la Lune par-dessus.
C'est la magie de la photo computationnelle. C'est comme ça qu'on l'appelle.
Computationnelle. Je sais
faut pas le traduire.
Juste que ça en français. Mais il faut, en anglais, c'est computational photography.
Voilà.
C'est plus de la photo argentique. C'est vraiment du traitement de données. Et moi, ce que je me dis, c'est peut-être pas, moi, je pense pas que c'est un scandale en soi. Les gens prennent des belles photos, c'est ce qu'on veut. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on veut comme photo? Est-ce qu'on veut des photos parfaites? Ou des photos réalistes? Est-ce qu'on veut des photos où on va voir les petits boutons dans le visage, on va voir les grains de la peau, on va voir les ombres, ou on va voir une espèce de version améliorée, bonifiée de la réalité, où tout le monde va avoir les dents droites, les sourires parfaits, et jamais de couettes de travers?
Ouais. Il y a une question de légitimité et d'authenticité, effectivement, qui est remise en question, en fait, par ces outils-là. Là.
Oui, puis on voit les filtres, la popularité des filtres sur Instagram. Voilà. Je vois les gens, ça n'a même plus l'air de personne. C'est des mangas. Et là, les gens s'inquiètent. Ils se font faire des chirurgies plastiques pour ressembler à cette image très déformée, de plus en plus déformée de la réalité. Je suis un peu mm-hmm. troublé par ça. C'est très drôle. Faut réfléchir là-dessus.
À juste titre. De mon côté, je commence avec une mauvaise nouvelle mm-hmm. pour bien des gens qui prolonge en fait le climat qu'il y avait depuis quelques mois là, dans le secteur des technos. Meta, la maison mère de Facebook, annonce de nouvelles vagues de coupures qui est en deux temps. En fait, on parle de 15 000 postes en tout qui vont être abolis. Il y en a 10 000 qui sont des postes, des emplois en fait, qui vont disparaître. Et il y a 5 000 postes vacants qui vont être éliminés, donc qui ne seront pas comblés. Pour un total de 15 000 sièges qui disparaissent au sein de Meta. C'est fou parce que avant Noël, ils avaient annoncé 11 000 coupures. Mm-hmm. Et tout ça ensemble, ça représente le quart de tous les employés de Facebook et Meta là, depuis qui a disparu. Donc, en dedans de 4 ou 5 mois environ, signe que les fait pas très beau dans les technos en ce moment. C'est un peu bizarre parce que en gros là, c'est pas comme si Facebook faisait pas d'argent. Là. Je veux dire, les résultats trimestriels sont très positifs, mais on exige de ces entreprises-là un rendement impossible à soutenir, une croissance continue du chiffre d'affaires. Dans un marché qui est de plus en plus mature, hein, Facebook, on le sait depuis des années, disons que ça plafonne à un petit peu plus de 2 milliards le nombre d'utilisateurs. Donc, nécessairement, les produits qu'on peut en dériver, à un moment donné, atteignent aussi leur plafonnement. Et on continue de pousser là-dessus. Chez Meta, on dit vouloir améliorer la performance financière, justement, et que ces postes-là qui vont être éliminés, ce sont surtout des postes intermédiaires de cadres qui sont un peu redondants. On veut aplatir l'organigramme, c'est-à-dire créer moins d'échelons dans la chaîne de structure, dans la chaîne de commande ou dans la structure en fait de l'organisation. Il y a des dossiers, des projets, des éléments qui étaient en développement, qui étaient peut-être moins rentables, qui vont aussi être éliminés. Un de ceux-là, je pense, c'est directement lié à tout ça. On a parlé au dernier épisode, la disparition du live shopping sur Instagram, ça doit être un exemple. Mais il y a aussi l'abandon des NFT comme outil de paiement des créateurs sur les plateformes de Meta, qui vient certainement de ce besoin-là de se recentrer sur les priorités chez Meta, mais qui est indicateur d'une tendance plus large. Je pense que le pique-nique est fini dans les technos. Là. La récréation, clairement, est passée. Et des éléments comme les NFT qui étaient clairement purement basés sur une espèce de hyper-optimisme spéculatif, un peu dans l'espace, un peu phénomène de bulle, si on veut, et va être un des premiers à en souffrir clairement, et c'est ce qu'on voit chez Meta en ce moment. Donc, à suivre dans les prochaines semaines. On dit que peut-être Google, en fait Alphabet, la maison mère de Google, pourrait elle aussi, dans les prochaines semaines, procéder à une nouvelle vague de coupures. Ça brasse pas mal. Faut dire qu'il y a un revirement aussi, hein, on va en parler plus tard dans l'émission avec ChatGPT, GPT-4, mais tous les outils comme ça sont développés pour plein d'applications, mais les premiers à adopter ces outils-là vont être des gens dans le secteur des technos. Donc, nécessairement, ça nourrit la machine. Là. On sait qu'on peut aller accroître la productivité en automatisant un paquet de tâches. Et nécessairement, les compagnies technologiques sont les premières à en profiter et à en souffrir aussi en deux temps. Donc, ça va être à suivre. Ouais, j'apprends un truc, là. J'allais passer à l'actualité suivante qui, si je comprends bien, nous annonce la venue d'un nouveau fournisseur Internet. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, un fournisseur Internet par le ciel, parce qu'il n'y a pas que Starlink qui offre de Starlink de Elon Musk, oui. Qui permet d'accéder à Internet à haute vitesse par satellite. Il y a Amazon qui travaille aussi là-dessus. C'est son projet qui s'appelle Kuiper. On a présenté un aperçu des antennes qui vont être utilisées pour se connecter à Internet. Donc, c'est par un réseau satellitaire, une constellation de satellites. Il en faut beaucoup, des satellites en orbite basse. On prévoit, écoute, j'ai pris en note, ça m'a surpris, on prévoit lancer jusqu'à 3236 satellites. Ça va demander 92 lancements de fusées qui vont commencer dans la première moitié de 2024. Donc, ce ne sont pas encore les satellites, mais déjà, ils ont les antennes pour capter le signal des satellites. Mm-hmm. Et c'est très drôle parce que ça ressemble grosso modo à une pizza. C'est une boîte là qui est un peu plus petite qu'une pizza moyenne. De 11 pouces par 11 pouces, qui est sur une base, ça c'est le modèle résidentiel. On promet une connexion Internet par satellite jusqu'à 400 mégabits par seconde. Et ça devrait être vendu autour de $550. Donc c'est relativement abordable. Un petit peu moins cher que ce que Elon Musk propose, qui est autour de $700 pour son antenne. Il y a un modèle plus compact, et ça va faire jaser. Ça, j'aimerais beaucoup, beaucoup l'essayer. C'est le format Bambini. Donc, c'est la pizza moyenne, c'est le format Bambini.
C'est ça basé sur la terminologie de la pizza.
Non, mais c'est moi. Non, c'est moi qui ai inventé ça. Okay. Hein. C'est moi qui ai fait ça. J'ai vu ça. J'ai dit, c'est une boîte de pizza sur un poteau. Là, il y a pas de, c'est une petite boîte à pizza sur une poteau. Très facile à visualiser. C'est un pouce d'épais, 7 pouces de côté, 7 pouces par 7 pouces. Ça pèse une livre et ça permet d'avoir 100 mégabits par seconde. Tu mets ça sur une table de pique-nique au milieu du
mobile,
bois, de la forêt et tu as quelque chose qui permet de connecter. J'ai bien hâte de voir l'autonomie, tu sais, avec une pile, comment ça va prendre de courant pour tout ça, mais en camping motorisé, c'est assez facile.
On sous-estime la population qui vit dans des véhicules récréatifs ou qui vit cette espèce de style de vie nomade qui aurait besoin d'un service comme celui-là. C'est pas pour rien parce que Starlink a aussi un service spécifiquement dédié aux véhicules récréatifs. Donc, on voit que Amazon a pris des notes.
C'est ça, ils l'ont rebaptisé, là, c'était pour les véhicules mobiles, mais ils l'ont rebaptisé genre mobile plus vague parce qu'ils se sont rendu compte probablement que les gens l'utilisaient de plusieurs façons. Et il y a un modèle plus costaud, peut-être pour les condos, pour les logements avec plus que plusieurs personnes qui va permettre 1 gigabit par seconde, donc 1000 mégabits par seconde, 19 pouces par 30 pouces plus costaud. Leur objectif était d'atteindre, d'avoir des antennes à moins de $500, moins de 700 canadiens. Ils vont commencer, comme je l'ai dit, à lancer les satellites dans la première moitié de 2024. Les services pourraient commencer à être offerts fin 2024, j'imagine, si tout va bien. Il n'y a pas de détails sur le prix de l'abonnement. J'imagine qu'Amazon va vouloir pousser fort sur les prix d'Elon Musk. Et c'est très drôle parce que Starlink, j'ai reçu un courriel, une promo qui offrait son service résidentiel à moitié prix pour l'antenne, $350, et son service toujours à $140 par mois. Donc déjà, là, je pense que Elon Musk ou Starlink essayaient de prévenir les annonces d'Amazon en disant finalement, notre antenne n'est pas si chère que ça, on l'offre à moitié prix.
J'espère que Telesat et son service et Léo vont finir par voir le jour de ce côté-ci de la frontière, parce que ça serait fun d'avoir un fournisseur local dans ce marché émergent de l'Internet par satellite, effectivement. Parlant de marché émergent, il y a des nouveautés qui s'en viennent du côté de la musique dans les prochaines semaines. Déjà, le 28 mars, on sait qu'Apple va lancer son application de musique classique, 100% dédiée à la musique classique. Et il y a du nouveau aussi du côté de Spotify qu'il va bien falloir qu'ils finissent par sortir leur service Hi-Fi, là, dans les derniers jours. D'ailleurs,
J'espère.
La direction de Spotify a confirmé que ça s'en venait sans trop dire quand, mais on sent que c'est bientôt. Le service Hi-Fi qui a été annoncé en 2021 déjà et qui devait fournir un service, en fait, un débit musical comparable à celui d'un CD, d'un disque compact. Donc, je pense que c'est 44 000 Hertz ou 44 000, quelque chose comme ça, là, en termes de fréquence. Et ce qui est arrivé entre-temps, c'est que ben Apple a lancé sa propre version sans compression musicale sur Apple Music, a offert aussi l'audio, le son spatialisé, l'audio spatial. Mm-hmm. Amazon aussi fait dans la... c'est pas de l'audio spatial, mais c'est la même chose, c'est avec Dolby, ça s'appelle Audio Ultra HD ou quelque chose comme ça. Donc, les services musicaux de haute qualité sont présents. Spotify, clairement, s'est fait dépasser et là, ils préparaient une suite à ça, Spotify Hi-Fi, qui pourrait, j'imagine, être rehaussé pour inclure le sans compression. Ça doit pas être très, très sorcier. Évidemment, ce qui embête les gens chez Spotify, parce que contrairement à Apple ou Amazon, Spotify ne fait qu'offrir de la musique. Ils vendent pas d'appareils. Il y a rien à côté qui fait beaucoup d'argent pour les aider à, mais disons, faire le plus profitable. Donc, ils doivent trouver la formule financière qui va à la fois faire leur affaire, faire l'affaire des abonnés. Est-ce que ça va coûter plus cher, comme le fait Tidal avec son Tidal Hi-Fi? Si ça arrive, ça risque de pas être un très gros succès, parce que je pense pas que les gens qui écoutent avec des écouteurs achetés chez Walmart dans l'autobus ou dans le métro leur musique ont nécessairement la quincaillerie nécessaire pour que ça fasse une différence, là, la qualité audio entre du 328 kilobits et d'autres choses. Donc, ça va être intéressant de suivre ça de ce côté-là. Du côté d'Apple, ben, ce qu'on va voir, c'est le 28 mars prochain, Apple Music Classic, une application qui va être téléchargeable à même le App Store et qui va évidemment probablement coûter autre chose que juste l'abonnement à Apple Music. Les détails, d'ailleurs, il va falloir les savoir, ça va être annoncé d'ici là. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que c'est une application à part qui va être dédiée. En fait, c'est une entreprise qu'Apple a achetée en 2021 qui s'appelle Primephonic, qui était spécialisée, qui avait déjà ce service spécialisé en musique classique, qui a été revampé, évidemment, pour être adopté aux couleurs de la grande famille Apple. La grosse différence, en fait, c'est que comme la musique classique n'a pas un modèle de commercialisation ou de mise en marché, ou peu importe comment vous voulez dire ça, mais qui est similaire à la musique pop, à la musique qu'on écoute à la radio, puis ainsi de suite. Évidemment, la façon dont ce contenu-là est proposé dans l'application va différer. Entre autres choses, le moteur de recherche n'aura pas la même façon de fonctionner. La recommandation de contenu sera pas basée sur les mêmes critères. Et les listes de lecture recommandées vont être créées par des humains. Ou en tout cas, va être créée d'une façon différente de celle créée par les gens qui travaillent chez Apple Music. Donc, ça va être à suivre. Ça va être offert partout dans le monde, ça, il n'y a pas de doute. Reste à voir la formule exacte, comment elle sera combinée à ce qui est offert actuellement. Et on présume, parce que c'est très important, que l'audio spatial, justement, va être inclus, parce que il n'y a rien comme écouter de la musique de chambre, comme si on était dans la chambre, n'est-ce pas? Et c'est un peu ça qu'offre ce genre de musique-là.
Oui, ça, je pense que d'écouter comme si on était dans une salle de concert ou dans la chambre, ça peut être très, très chouette. Mais oui, on annonçait ça. Puis j'ai vu, Alain, écoute, qu'il n'y aurait pas de frais supplémentaires pour les utilisateurs. C'est une application distincte.
Ah oui, ah, ben, tant mieux.
Pour la musique, mais ce que je comprends, partout, il n'y avait pas de frais supplémentaires. Mais étrangement, ça va être une application distincte, mm-hmm. probablement justement pour faciliter la recherche des morceaux par compositeur, comme chef d'orchestre, comme numéro de catalogue de musique. C'est ça, je pense, la difficulté pour les amateurs de trouver. C'est pas nécessairement une chanson que tu veux un interprète, une salle de concert, une date,
tout ça. Bon, tant mieux si c'est gratuit, on pourra en reparler parce que au devoir, j'ai mon collègue Christophe Huss, qui est un expert de musique classique, qui aura certainement l'occasion d'essayer ça et de venir commenter chez nous. Je vais l'inviter. Oui. J'espère qu'il va dire oui. Ça va faire changement. On parlait de musique classique à une tasse de texte. Ça va relever le niveau. Nous, on a des bonnes voix radiophoniques, Pascal, mais on fait certainement pas dans la musique. Et là, ce sera l'occasion de plonger un peu dans cet univers.
On n'a pas que des voix radiophoniques, on a aussi des visages télévisuels.
Mais... bon point. Ou en tout cas, YouTubeable. Je sais pas si c'est un mot, mais sinon, je viens de l'inventer. Merci Pascal, ça fait le tour des actualités. On prend une mini pause et on revient. On va parler de ChatGPT, GPT-4, d'intelligence artificielle, de langage, de compréhension du texte, de génération. En tout cas, on va parler de tout ça parce que c'est la folie et il y a eu du nouveau cette semaine. Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Est-ce qu'il faut craindre? Qu'est-ce qu'on en pense? Restez avec nous, on en parle tout de suite à une tasse de tech.
Ne manquez pas le balado « Relève-toi ». Présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marcellet reçoit l'animatrice et conférencière Josie Boudreau.
On avance. C'est que, comme j'ai dit, je regarde jamais en arrière. On avance avec ça.
comment ça va pour vrai? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous au 1-866-APPEL. Ensemble, tissons l'espoir.
De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget.
Et re-bienvenue sur Une tasse de tech. On met notre gros cerveau là pour parler de choses très sérieuses, Pascal, lorsqu'on va parler d'intelligence artificielle. Il y a eu une nouvelle cette semaine, OpenAI, qui est le laboratoire californien qui développe le principal moteur de compréhension et de génération du langage qui fait beaucoup jaser ces jours-ci, GPT, qui est derrière le service web ChatGPT, là, qu'on a vu un peu partout dans les derniers mois, a présenté GPT-4, qui est la quatrième génération en principe de cet outil-là de compréhension et de génération du texte. ChatGPT, pour vous donner une idée, c'est comme des systèmes d'informatique en tout genre. Là, il y a différentes versions. On avait la version 3.5 et là, il existe aussi la version 3.5 Turbo. Ça peut juste vous mêler un petit peu plus. Et là, on a présenté GPT-4. Il y avait depuis plusieurs mois bien des rumeurs à ce sujet-là, hein, savoir que ça allait décupler, plus que décupler en fait, la puissance, la capacité de compréhension des outils comme ChatGPT. Pour l'instant, ChatGPT reste sur 3.5, donc il n'y a pas de mise à niveau instantanée. Il faut être client de la version Plus, donc il faut payer pour avoir accès à la plus récente version de l'outil, qui est quand même une belle amélioration là par rapport à la précédente. Pour ceux qui veulent absolument toucher à la bibitte, c'est aussi intégré, là, GPT-4, immédiatement dans Bing, le moteur de recherche de Microsoft. C'est sur invitation pour y accéder, mais c'est pas très compliqué, c'est gratuit. On se met sur la liste et éventuellement on est accepté. Ça permet de poser des questions à Bing qui nous répond en deux façons, avec une liste de sites web comme dans le temps, en fait, comme la plupart du temps, et avec aussi cet agent conversationnel, ce chatbot, comme on dit en France, qui permet d'avoir un certain dialogue. Ce qu'il y a de bien avec la nouvelle version de GPT-4, c'est qu'on passe, en termes de compréhension et de génération de langage, on passe d'une longueur maximale de 3000 mots à une longueur maximale de 25 000 mots. Donc, c'est presque 10 fois plus. Ça fait qu'on peut poser une question, et même plus qu'une question, mais très, très complexe, et l'outil, à l'inverse, peut nous répondre sur à peu près l'équivalent de la moitié d'un roman. Là, c'est quand même beaucoup, 25 000 mots. Ça veut pas dire que ça va arriver, mais ça veut dire que c'est possible. Il y a aussi la possibilité de poser des questions, en fait, d'offrir du contenu à ChatGPT sous forme de texte et d'images. Donc, on peut intégrer des images et ChatGPT va interpréter ce qu'il y a à l'image pour nous aider. Par exemple, qui a fait cette peinture? Et là, si on met une photo d'une œuvre de, par exemple, Picasso, ben, elle va probablement dire, espérons qu'elle va dire Picasso, parce qu'elle n'est pas 100% toujours sur la coche, mais quand même, c'est un peu ça l'idée. À l'inverse, elle répond seulement strictement en texte. Il n'y a pas de génération d'images. Il y a évidemment, dans le cas de Bing, je crois, il y a une synthèse vocale aussi. Donc, elle peut répondre vocalement, mais toujours à base de texte, on se comprend. On dit que ChatGPT, en fait, que GPT-4, pardon, est 40% plus susceptible de fournir des bonnes réponses, des réponses factuelles à des questions précises. Évidemment, la base d'entraînement demeure limitée là, dans le temps. Il n'y a pas d'actualité brûlante avec ces outils-là, mais de façon générale, a des réponses à des questions assez précises. Et on dit que le risque de générer du contenu malicieux ou des choses qui seraient nocives est réduit de 80% par rapport à GPT-3.5 ou GPT-3, dépendamment comment vous le voulez. C'est parce qu'on ne sait pas vraiment à quel point c'était un gros problème avant, donc on présume que c'est beaucoup moins quand c'est 80% moins gros, mais c'est peut-être encore très gros, on le sait pas trop. Évidemment, des petits coquins vont vouloir déjouer le système et vont vous présenter dans les prochaines semaines, comme ça a été le cas avec le New York Times et d'autres, des situations où « Ah non, l'intelligence artificielle m'a dit que j'allais mourir » et des choses comme ça, alors que c'est strictement un miroir évolué de ce qu'on lui propose comme chose. C'est clairement juste un outil de texte. Pour moi, c'est un Wikipédia sur les amphétamines. Là. C'est pas il y a pas un robot qui va sortir du placard puis venir vous puncher en plein visage parce que vous lui avez demandé quelque chose d'insultant. Donc, évidemment, le niveau de capacité de cet outil-là à vous répondre dépend de votre niveau de capacité à lui proposer des sujets ou des questions conséquentes, hein, qui sont d'un certain niveau. Et en lien avec ça, parce que je vais juste faire la parenthèse, puis on parlera, tu me diras ensuite ce que tu en penses, mais dans la foulée de l'annonce de GPT-4, d'un côté chez OpenAI, Google, qui est clairement son concurrent, a annoncé, ben oui, parce qu'ils sont finalement, ils essaient de rattraper leur retard. Parce que tu sais, la réponse à ChatGPT avant Noël chez Google et chez Facebook, c'était... mais nous aussi, on développe un outil qui est déjà pas mal meilleur, mais on voulait juste pas vous en parler. Tu sais, c'est un peu comme le... Parce qu'il y avait un petit côté passif-agressif. Là, Google finalement passe à la vitesse suivante et intègre une intelligence artificielle similaire à ChatGPT dans ses outils de Google Workspace. Donc, dans Gmail, dans Google Docs, dans Google Sheets, qui est, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, c'est, je veux dire un tableur, mais c'est pas ça le nom, là, et Google Slides, donc l'outil de présentation. Dans les, dans tous les cas, on pourrait demander, il suffit d'entrer un mot-clé et va se générer automatiquement un texte basé, en fait, un brouillon de texte basé sur ce qu'on lui demande. Genre, je dois écrire sur... les changements climatiques. C'est pas une super belle information. Mais bon, et là, il va nous détailler ce qu'il y a dans le temps. Et là, on pourrait évidemment, à partir de là, personnaliser, corriger s'il faut, puis ainsi de suite, puis avoir un document complet terminé. Moi, ce que j'aimerais, parce que c'est ce que Google promet, et je vais devoir l'essayer, c'est que dans Google Slides, on va pouvoir créer une présentation de plusieurs diapos. Et automatiquement, le texte et les images vont être générés par Google. Oh. Donc ça, c'est vraiment un bel outil où tu dis, ben, je dois faire une présentation sur les résultats de mon entreprise ou sur l'évolution du marché de mon entreprise. J'ai besoin de 15 minutes de slide, donc j'ai besoin d'à peu près de, je sais pas, une vingtaine de diapos. Et là, pouf, automatiquement, elle va faire le gros de la job. Et ça, pour moi, ça a vraiment beaucoup de valeur en entreprise parce que c'est un outil de productivité qui va vraiment faire sauver un paquet de temps, un paquet de monde. Et je le vois de façon très positive de ce côté-là. Il y a aussi l'intégration de l'intelligence artificielle de Google dans Google Meet, l'application d'appel vidéo qui va permettre de créer des fonds d'écran virtuels personnalisés et qui va aussi faire le procès verbal de ce qui est discuté là, pendant la conversation. Ça, c'est assez bien. Procès verbal, là, je vais vous dire en gros, déjà dans l'enregistreur vocal sur le Pixel 7, et probablement le Pixel 6 aussi, mais je l'ai pas essayé sur ce téléphone-là. On peut enregistrer une conférence, une entrevue, n'importe quoi, et automatiquement, la transcription écrite se fait, et c'est super précis. Oui. Moi, c'est devenu mon service de facto là, que j'utilise quand je fais des entrevues avec des gens pour le travail, et il y a à peu près jamais d'erreur, même avec un gros accent, même avec un micro, avec quelqu'un sur scène loin devant. C'est vraiment surprenant. Donc, on a probablement juste intégré ça à Google Meet, ce qui n'était pas un gros effort, mais qui aurait dû être fait il y a un an. Là, malheureusement, on a l'impression qu'on le fait un petit peu en retard. Mm-hmm. Mais Google, effectivement, avait déjà ça en poche. Longue histoire courte, Pascal, je te pose la question, est-ce que tu penses qu'on va assister à une vague massive de mise à pied à cause de chez GPT-4? Moi, je pense pas.
Moi, je pense que ça va bouger beaucoup de choses, par exemple. Mm-hmm,
c'est clair.
Parce que au lieu d'engager quelqu'un pour rédiger du contenu promotionnel, tu veux envoyer un message Facebook par jour. Déjà, le niveau est pas très élevé, honnêtement. Là, genre, qu'est-ce que vous pensez du lundi? Êtes-vous fatigué? Hey, aimez-vous le café? Je vois beaucoup de contenu comme ça, douteux, ouais, qui circule. Les entreprises vont s'amuser à générer avec ChatGPT. Dis-moi 10 questions que je peux poser à mes abonnés Facebook. Il va y avoir beaucoup de contenu comme ça. Pour le contenu rédactionnel, promotionnel, tu sais, le fameux content...
Sponsored content.
SEO, là, Search ouais. Engine Optimization. Ah, là. Ouais. Écoute, tu vas remplir un site web de 250 pages de
contenu. Le marketing de contenu.
Qui va brasser sensiblement les mêmes concepts. Fait que oui, ça va brasser énormément de choses. Moi, je pense que c'est les fraudeurs qui vont en tirer tout d'abord. C'est tout le temps ça. Hein. C'est comme les fraudeurs vont...
Quand c'est pas la porno, c'est la...
c'est pas la porno, c'est les fraudeurs, parce qu'avec ça, tu peux créer des messages très alléchants. Je mm-hmm. peux dire, comment je peux répondre à ce monsieur-là? Je suis une femme française esselée avec un enfant. Tu peux tout générer la réponse automatiquement et probablement que ça va être mieux écrit que ce l'est maintenant.
C'est ce que tu dis là est extrêmement vrai, parce qu'on le sait, surtout en français ici, tu sais, les campagnes d'hameçonnage sont généralement en anglais. Et en français, c'est atrocement mal écrit. Tu sais, les faux mm-hmm. courriels de Desjardins ou peu importe sont toujours plus bourrés de fautes, alors que là, on va pouvoir, dans un seul clic, générer le même courriel de phishing, de hameçonnage en comme à peu près 14 langues, et ça va être bien écrit dans les 14 langues. C'est vrai que ça va rehausser la difficulté de ce côté-là, il n'y a aucun doute. Oui,
puis si quelqu'un répond, tu vas pouvoir générer rapidement une réponse détaillée qui va dire « Pourquoi tu peux pas me voir? On veut plus se voir. Non, je ne peux pas te voir, blabla. » Là, tu peux détailler toute une histoire que ChatGPT peut créer, qui est assez mm-hmm. flyée. Je vois pour la recherche, ça risque de brasser beaucoup au niveau de toutes les entreprises qui dépendent de revenus, parce que maintenant, plus une liste de liens. Moi, je regarde l'intégration de ChatGPT dans Bing et c'est beaucoup plus joli que je l'imaginais. Parce que dans la version démo, tu avais ton champ de recherche habituel et dans le coin, tu avais une petite fenêtre pour ChatGPT. Dans la version, quand j'ai enfin été accepté à la bêta, à la démo, tu as carrément un champ qui s'appelle conversation. Mm-hmm. Et là, tu jases avec Bing. Tu n'as pas de lien. Là. On ne donne pas. On va donner les sources, on va donner d'où ça vient, mais on n'aura pas une série de liens. Fait que tous les liens publicitaires qui étaient, comment ils vont financer.
Et sur mobile, c'est encore mieux fait dans Bing, en fait. Mm-hmm.
Super bien fait. Fait que Microsoft, je ne sais pas comment ils vont monétiser ça. Ça va peut-être se gâter dans. Peut-être avoir des panneaux publicitaires, des pop-up, des trucs qui vont s'ajouter au fil des prochaines semaines.
Voilà.
Ce que j'ai remarqué aussi dans l'intégration de ChatGPT dans Bing, c'est que tu as la possibilité d'avoir un style de conversation plus créatif, plus équilibré ou plus précis.
Mm-hmm.
Fait que si tu veux vraiment des faits, des trucs techniques, tu peux y aller. Sinon, il va te répondre de façon plus joviale, plus conviviale et tout. Je trouve ça assez impressionnant. J'ai pas encore fait beaucoup de recherches là-dessus, mais de se faire donner une recette de gâteau au chocolat au lieu de se faire donner un lien vers Ricardo, ça va peut-être tuer Ricardo, là. Ça va peut-être faire mal à Ricardo.
Ben, c'est un bel exemple. C'est un exemple que j'utilise beaucoup aussi parce que ces applications-là peuvent fournir sur mesure des recettes. Et Ricardo, c'est un cas très spécifique où c'est genre 15% du web québécois un samedi parce que tout le monde cherche une recette pour souper.
Mm-hmm.
Et c'est effectivement un modèle d'affaires qui pourrait être à risque quand tout dépend du nombre de clics générés par les recherches Google, là, définitivement.
Et puis quand tu parles de mise à pied, je pense aussi aux créateurs de contenu, entre guillemets. On a parlé des publicitaires et tout. Mais tout cela, moi, j'ai vu des vidéos sur YouTube, là, puis j'ai dans la même journée un texte qui était écrit, puis je me dis, c'est pas un humain qui a écrit ça, ça se peut pas, là. Mais quelqu'un a écrit une vidéo sur Tom Cruise, puis il parlait du film Mission Impossible, Conséquences. Mission Impossible,
ouais.
C'est Fallout.
Mm-hmm.
Synonyme,
il a mal traduit,
il a mal traduit, il a mal adapté, puis il disait que Tom Cruise pour faire le film a fait 3 mois d'entraînement pour avoir une licence pour piloter un ventilateur. Ventilateur. OK, puis là tu avais des images d'hélicoptère à l'écran. Fait que là, je me dis, dans 5 ans, ça va carrément être la vidéo en entier qui va être créée. Ça va être des gens qui vont faire n'importe quoi.
Mm-hmm.
Fait que ça risque de brasser beaucoup de choses. Mais je me permets d'être assurant en me disant que c'est peut-être comme l'arrivée de la calculatrice. Quand on a dit, OK, les gens utilisent la calculatrice, on va s'en servir. On va t'apprendre à compter. Puis une fois que c'est fait, ben pourquoi se casser la nénette à faire des longues multiplications à la main quand on peut demander à la machine de le faire? Et on espère que ça va servir d'assistant, de guide, et que ben c'est sûr que quelqu'un qui va faire un texte uniquement en générant ChatGPT. Et c'est très drôle parce que quand ChatGPT 4 est sorti, je venais de livrer un article sur ChatGPT.
Ouais.
Et puis j'avais demandé à ChatGPT, je me disais, ah moi, le concept, j'allais pas faire ça, mais je me dis, il faut que je demande à ChatGPT de prendre la demande de la rédactrice et de générer le texte, juste voir qu'est-ce
que ça donne. Pour comparer déjà, ben oui.
Et je me dis, OK, j'ai encore quelques années pour pouvoir rédiger des textes.
Oui.
Parce ben, je veux que dire, le texte marchait.
Ben, je veux dire, les journalistes qui s'inquiètent n'ont pas lieu à s'inquiéter s'ils font du bon travail parce que c'est clair qu'on n'est pas encore rendu au niveau de subtilité dans le texte et tout ça là, qui permettrait de remplacer.
Il manque un petit quelque chose. C'est un peu plus technique. C'est un peu redondant. C'est un peu bizarre. La formulation était humaine. Encore une fois, là, quelqu'un qui lit vite, ça passe super bien.
Mais c'est fonctionnel.
Mais selon moi, rédacteur en chef qui aurait accepté ça, on n'a pas lu le texte.
Ouais, on n'est pas à point, mais quand même, c'est un outil qui est utilisable, qui fournit du contenu dans un contexte, évidemment, où il faut prendre toujours ça avec un grain de sel, parce que ça ne veut pas dire que c'est factuel. Donc, les gens qui veulent vraiment c'est la vérité absolue sur un sujet, il va falloir quand même effectuer des recherches approfondies à côté. Mais c'est rien qu'on ne doit pas faire avec Google. On pense que Google a la réponse à tout. Hein. On idéalise toujours l'affaire d'avant. Le moteur de recherche Google ou même Wikipédia, c'est pas des sources infaillibles non plus. Donc, on est un peu dans le même esprit. Sauf que là, on le formule différemment. On le formule comme si on se parlait, nous, autour d'une tasse de café. Donc, ouais, ça soulève d'autres questions, définitivement. Il va y avoir plein de conversations pour ou contre ChatGPT ou pour ou contre GPT-4 à partir de maintenant. Moi, je suis pour. Je pense qu'il y a rien comme trouver des outils toujours plus performants. Évidemment, ça signifie pas que ces outils-là vont être utilisés strictement à bon escient. Donc, il faut toujours regarder ça avec un œil critique. Mais quelqu'un disait récemment, on va pas remettre le dentifrice dans le tube. Hein, maintenant que ça existe, c'est comme ça. Si on allait décider
que. C'est pour ça que je trouve que la question, c'est comme, croyez-vous aux extraterrestres ou non? Que tu y crois ou non, ça change rien à leur existence.
Exact.
Ou non. Dans le cas de ChatGPT, est-ce que tu es pour ou contre? Tu peux être pour, tu peux être contre. Ça enlèvera jamais son existence.
Voilà.
Et puis, on est qu'au début, parce qu'encore une fois, celle de Google n'a pas été. Facebook en a une, Baidu, le géant chinois.
Ouais, supposément, qu'ils vont en développer une. J'ai hâte de voir, effectivement, comment les Chinois vont faire pour copier n'est-ce pas, parce qu'ils ont tendance à faire ça, ce qui se fait ailleurs. Moi, ce que je dis, c'est que tant qu'il n'y a pas une intelligence artificielle comme celle-là qui est capable de faire mon rapport d'impôt, on n'a pas encore atteint le niveau, c'est transformationnel, parce que ça
c'est bien trop compliqué.
Il y a aucune intelligence artificielle qui peut combattre Revenu Québec et Revenu Canada. Je pense que c'est comme
c'est
ça.
C'est génial. Parce que l'intelligence artificielle peut jouer aux échecs, peut jouer au go, peut battre des champions, mais peut pas remplir une déclaration de revenus.
Voilà.
Ce qui demande, selon moi, toute l'absurdité de comment une déclaration de revenus, c'est quelque chose qui est pour moi insurmontable.
C'est un autre niveau de...
pour être le plus obscur possible.
Exact. Alors voilà, le point est fait. Maintenant, c'est à votre tour d'aller vous faire une idée. Vous pouvez accéder, il y a possibilité d'accéder à tout ça gratuitement si vous allez aux bons endroits. On mettra peut-être des liens dans la description de la balado après l'avoir enregistré, n'est-ce pas? Nous, on prend une mini-pause parce qu'il faut quand même vider le cerveau de ça et remplir d'une autre information pour la suite. Et le dernier bloc de l'émission sur nos tests produits. Moi, j'ai des écouteurs. Pascal, tu nous présentes de mémoire un clavier,
oui,
un étui.
Beaucoup de gens me posent des questions sur la tablette en papier électronique Remarkable, qui est conçue pour travailler de façon productive. Qu'est-ce que ça change d'y ajouter un clavier qui vient d'être lancé? Je l'ai entre les mains et je vous donne mon avis, mon expertise sur le sujet.
Restez avec nous.
Ne manquez pas le balado « Relève-toi », présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marcellet reçoit l'animatrice et conférencière Josée Boudreau.
On avance. C'est que, comme j'ai dit, je regarde jamais en arrière. On avance avec ça.
Comment ça va pour vrai? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous au 1-866-APPEL. Ensemble, tissons l'espoir.
De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget.
Et bienvenue à Une tasse de tech, dernier segment de l'émission, le segment ludique. Moi, c'est toujours comme les jouets. On sort les jouets à la fin de l'émission et là, on s'amuse. J'ai vu passer l'annonce du lancement du clavier pour la tablette Remarkable. Pascal, toi, tu l'as, si j'ai bien compris.
Oui, as-tu pensé à moi? T'as pensé à moi?
Ben, immédiatement, parce que les tablettes e-ink, on sait que t'as un certain fétichisme pour ça.
Je trouve ça fantastique, le papier électronique, parce que c'est des appareils qui sont doux pour les yeux. Le rafraîchissement est plus lent qu'une tablette conventionnelle, mais tu peux écrire en plein soleil, t'as pas de reflet. Plus il y a de soleil, plus ça, tu vois bien. Et c'est quelque chose de zen, je trouve, d'écrire avec un écran papier électronique, consulter du texte, lire. C'est pas pour rien que les liseuses sont sur des écrans papier électronique. C'est doux pour les yeux, c'est le fun. Remarkable, c'est la tablette qui s'est distinguée comme étant celle qui reproduisait le mieux l'expérience du papier. J'en ai essayé d'autres. Elles sont super efficaces. La performance est très, très similaire, la réactivité et tout. Mais Remarkable, c'est vraiment concentré sur l'expérience papier. Et là, à ma grande surprise, ils ont dévoilé qu'il y avait un clavier maintenant. Il y a un clavier un peu comme le type...
Le type cover de l'iPad. Le
cover du iPad qui se glisse par-dessus et qui permet de garder sa tablette Remarkable. Pour ceux qui ne visualisent pas, c'est comme un iPad, mais avec un écran gris et noir, en nuance de gris et noir, très doux, qui fonctionne avec un stylet normalement. Et là, tu branches ton clavier et tu peux taper du texte dans tes notes. Et c'est assez cool comme concept parce que je peux taper du texte et l'encercler, le souligner, mettre une petite étoile à côté, très interactif. L'interface est absolument minimaliste, ce n'est pas un traitement de texte, on n'a pas encore, et j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment ça, qu'il y ait un mini traitement de texte.
Ah, un peu de mise en forme, là.
C'est ça, pour peut-être pas de la mise en forme, mais au moins pouvoir peut-être avoir plusieurs blocs de texte, créer des documents séparés, distincts des documents.
Ah, dans ce sens-là.
Oui, c'est ça. C'est vraiment pour que des fois, tu veux dessiner et annoter. C'est fantastique comme expérience. Mais des fois, tu veux seulement écrire un article. Et c'est là que le fun diminue un peu. Je vais me permettre de dire, je trouve que ça tape bien, c'est sympathique, c'est joli. Mais le truc qui est particulier, c'est que tu as premièrement une expérience extrêmement minimaliste. Là, ceux qui s'attendent à remplacer Word avec ça, c'est que tu peux pas exporter le texte autrement que par un courriel.
Oh!
Tu peux pas sauvegarder ton document. Tu pourrais l'exporter dans un PDF avec tes dessins et tout, ce que tu veux peut-être, une image. Tu fais un texte, tu mets des dessins, ta note, tu commentes et tout à la main. Donc, tu as un beau combo. Mais je m'attendais à ce qu'on puisse créer du texte séparément et peut-être l'exporter idéalement en format Word, le sauvegarder directement dans son OneDrive, le sauvegarder directement dans son espace Google. Puis là, tu peux le finaliser, le mettre en page, l'éditer dans un éditeur de texte normal. Non, on l'envoie dans un courriel en format texte pour copier le texte de son courriel, le mettre dans son traitement de texte et finaliser son texte, ce qui est assez minimaliste comme expérience. Mm-hmm. Et l'autre chose qui est particulière, c'est que le clavier physique comme tel est offert en plusieurs langues, entre autres en français, en norvégien, en espagnol avec les configurations AZERTY, QWERTY, ainsi de suite.
Ah oui.
Mais pas en français canadien. Donc ça, c'est correct physiquement qu'on ait le clavier américain.
Ah, parce que les Français, ils ont le AZERTY, c'est vrai.
Le français a AZERTY, mais au niveau logiciel,
on peut pas avoir un
clavier avec les accents canadiens. J'ai pas vraiment de problème avec ça. J'ai l'habitude de taper sans regarder.
Mais la disposition n'est pas la même.
Logiciel, au niveau logiciel, il n'y a pas le clavier canadien-français. Alors, tu as un clavier américain. Tu peux taper les accents, mais ça demande des combinaisons de touches qu'il faut mémoriser, qui sont épouvantables. Quand t'as ton doigté, t'essaies de taper, ça marche pas. T'as pas le clavier canadien, français ou canadien multilingue international que j'utilise habituellement. Ça m'a un peu déçu parce que je commence à taper comme d'habitude. J'ai comme, oh, wow, français est supporté. Je regarde français. Pourquoi ils me demandent pas les options régionales? Il y a pas d'options régionales pour l'instant. Ceux qui nous écoutent de France, vous avez de la chance, ça fonctionne. Mais si ça veut besoin d'un clavier français belge ou français suisse ou français Maroc, je sais pas, vous aurez pas ces options-là pour l'instant. Je touche du bois. C'est Linux qui est derrière Remarkable. Alors, j'imagine, c'est pas grand chose d'ajouter les différents types de claviers virtuels, les claviers logiciels qui sont derrière pour qu'on puisse taper avec un clavier américain standard ou français avec les accents qu'on désire, comme ça. Fait que, autrement, c'est super chouette. Il y a aussi que c'est pas donné, ce truc-là. C'est 224 Canadiens.
Oh, en plus de la tablette, là.
En plus, la tablette est en plus, là, les 600 quelques dollars, si je ne m'abuse, là, des fois, il y a des soldes, mais c'est vraiment ça, puis on n'a pas notre stylet avec ça. Fait que ça, ça coûte presque pas 1000 dollars pour l'ensemble, mais on n'est pas loin du tout.
Faut être un grand utilisateur, là. Faut vraiment prendre beaucoup, beaucoup de notes.
Mais ça.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que ça peut remplacer le papier? Il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, là, ça prendrait ça parce que, je fais beaucoup de notes papier, mais ça en prend des blocs notes papier, là, pour, Puis le fait qu'on ne puisse pas le clavier partager directement, sauvegarder et exporter le texte directement à un endroit où il pourrait être massé, trituré, bonifié. Je comprends l'approche minimaliste à 100% qu'on veut peut-être juste faire un premier jet d'un texte, mais ça pourrait être le fun peut-être de mettre des, je sais pas moi, entre autres, comment ça s'appelle, le code des raccourcis type qui permettent d'écrire de la mise en page avec des instructions minimales, mettre une puce un document.
Pour que ça des outils de formatage, déjà, ce serait
des options de formatage simples qui permettent de mettre un peu d'ordre dans son texte sans perdre de temps sur la mise en page. On sait que les gens passent 80% du temps à ajuster la police de caractère, puis la taille du caractère, puis les marges versus écrire. Avec Remarkable, tu peux écrire très rapidement, mais je touche du bois pour que rapidement, puis évidemment, je vais vous le dire en jouant, en criant dans le début des nouvelles, de dire « Hey, le clavier canadien-français est arrivé.
Enfin, »
Mais en attendant, c'est un pensez-y bien, à moins que vous tapiez qu'en anglais, le clavier n'est pas aussi utile que j'aurais aimé.
Dommage, parce qu'il y a un bel il y a fière allure, en fait. Ça a l'air
C'est magnifique, et en plus, ça a l'avantage de protéger sa tablette Remarkable, ce qui était toujours une petite inquiétude. Moi, je la glissais dans une enveloppe, et ça protège les deux côtés. Donc, c'est très le fun. C'est chouette. C'est une espèce de cuirette noire ou brune. J'ai la brune, pas le lait. Peut-être préféré noir.
Ben, ça fait livre, ça c'est typique là, des trucs en cuir, là, effectivement.
Ça fait un livre. Et on a trois angles qui sont, c'est comme un petit rabat qui se plie en origami. Là. Ça permet de lire à plat. Ça permet aussi de lire avec un angle pour écrire et un angle plus aigu pour dessiner en même temps. Donc, si tu veux taper et dessiner en même temps, tu as un angle assez aigu, tout ça avec une espèce d'origami qu'on glisse dans la tablette. Fait que j'aime beaucoup. Je suis super content de l'avoir. Je vais vous tenir au courant. C'est un pensez-y bien. Puis moi, je vous dis, là, les tablettes avec un clavier comme ça, c'est assez magique pour écrire relax. Si j'avais eu canadien français, là, j'aurais un petit peu pleuré.
Ça aurait complété l'offre. Bon point.
Ça m'aurait comblé de bonheur.
Merci, Pascal. Ben oui, ben moi, je reviens sur un truc qui est apparemment mon thème de l'hiver, là, parce que on a parlé au début de l'année d'un casque Cyberacoustics, là, qui est un casque Bluetooth avec un micro intégré, un peu un casque de, comme les casques de jeux vidéo, en fait, mais vraiment axé sur le travail, télétravail, choses comme ça. Et Kensington, qui est une marque qui clairement veut se faire connaître dans le secteur du gadget électronique, vient de m'envoyer ce casque, qui est le Kensington H3000, qui joue à peu près le même rôle que le Cyberacoustics, mais qui est un peu différent aussi. C'est Kensington, c'est une marque qui est très connue dans le monde inter-entreprise, B2B, vend ce casque-là dans les centres d'appel qui sont très, évidemment, intensivement au téléphone la plupart du temps. Là, ils ont en fait décliné ce modèle-là pour le grand public. C'est un casque, bon, donc avec micro, là, vous le voyez pour ceux qui nous regardent sur YouTube, qui est un micro qui est sur une perche essentiellement qui se porte devant la bouche. Ce que ça permet? Ça permet différentes choses. C'est que, premièrement, quand on relève le micro, ça automatiquement le place en sourdine, donc on peut couper le son facilement quand on est dans un appel vidéo, Zoom, Teams, peu importe. On le rabat et là, on a un micro qui, en plus d'être près de la bouche, donc de bien capter le son, vient avec des algorithmes d'isolation sonore, en fait. C'est qu'on on s'adapte au bruit de fond et on le réduit au minimum possible. Comme ça vient de centre d'appel, hein, quand on le sait, quand on parle au téléphone avec des services clientèle et qu'on entend la salle derrière, on sait que c'est clairement oui. un service où il y a plus qu'une personne qui travaille. Et là, ça aide à réduire beaucoup le bruit de fond, à minimiser quand même assez bien, surtout si vous travaillez à la maison, des choses comme ça, vous avez des enfants ou des gens qui sont près de vous, même dans un petit bureau, dans un service de coworking, là, dans un espace partagé, ça isole quand même assez bien du bruit de fond. Bon, évidemment, il y aurait aussi un intérêt d'avoir une isolation sonore inversée, là, c'est-à-dire une annulation du bruit pour quand on écoute soit la voix d'une conversation téléphonique ou même de la musique, parce que c'est un Bluetooth assez riche. Malheureusement, elle ne contient pas cette fonction-là dans ce casque-là. En revanche, comme ce sont des oreillettes qui over the ear qui englobent l'oreille au complet. Se
pose sur l'oreille.
Ouais, exactement. Ça se dépose sur le côté de la tête, donc ça vient isoler passivement, physiquement l'oreille et ça coupe quand même une bonne partie du bruit parce que le coussinet là, est quand même assez dense et enlève une bonne partie du bruit de fond. C'est rien comme les casques qui coûtent 3 fois, 4 fois ce prix-là et qui offrent cette annulation du bruit-là. Surtout la nouvelle génération là qu'on voit depuis l'automne des grandes marques, le Sennheiser. Jabra, tout ça, Sony aussi, qui ont vraiment des algorithmes de sonorisation extrêmement puissants. Malheureusement, ils coûtent 2 ou 3 fois plus cher que ce casque-là. Donc ça, c'est peut-être un truc. Mais si vous travaillez dans un environnement relativement silencieux, ce casque-là fait tout à fait le travail, surtout qu'il coûte seulement 129 $ américains. En fait, c'est 100 $ américains en ce moment. Donc c'est à peu près 130 $ canadiens. Ce qui est une fraction du prix des casques qui n'ont pas ces fonctions-là. Détail intéressant. 2 choses, en fait. Le micro, fonctionne des 2 côtés, donc on peut le porter du côté droit ou du côté gauche sans problème pour les gens qui sont gauchers ou droitiers. Je sais pas exactement comment ça fonctionne.
Ben oui, quand tu prends une tasse de café puis que tu as le micro du côté gauche, si t'es gaucher, c'est pas le fun. Fait que tu peux le porter de l'autre côté si j'aime ça.
Bel exemple, j'avais pas pensé à ça. Et il y a aussi sur l'autre oreillette, en fait, une des commandes qui ne sont pas tactiles, mais des boutons de commande. Il inclut un bouton central sur lequel on appuie 2 secondes et il y a une bague, il y a un anneau rouge qui illumine. Et ça, c'est un mode ne me dérangez pas, je suis en conférence. Ça des fois, on a des collègues de bureau, des gens qui travaillent dans la même pièce et qui veulent nous parler sans raison et ils peuvent juste de ce coin-là et voir que on risque de pas répondre parce qu'on est occupé ailleurs. C'est un petit détail, mais combien intéressant et pratique quand on est à côté d'autres personnes qui aiment ça jaser à tout bout de champ, parce que ça évite justement de se faire interrompre malgré soi. Je l'ai dit, il est pas très cher, 40 heures d'autonomie par charge avec le micro actif et l'insonorisation activée. Je pense que c'est 60 heures si on n'utilise pas le micro, donc juste pour écouter des trucs. Ça utilise Bluetooth 5.2, ce qui est une version de Bluetooth qui est très peu énergivore et ça explique cette autonomie prolongée. C'est dans la moyenne des casques élevés, là. C'est la moyenne supérieure d'autonomie des casques, de ce genre de casque-là. Il y en a beaucoup qui c'est 25 à 30 heures d'autonomie, donc on est vraiment de ce côté-là bien, bien équipé. Le micro est bon en termes d'élimination du bruit ambiant. Allez pas faire enregistrer une chanson avec ce micro-là. On pourrait même pas faire de balado avec parce que le son reste quand même assez plat. Là. La voix sonne comme dans un téléphone d'une autre époque. Là. Il y a pas un grand spectre sonore. Là, on va pas vous cacher ça. Donc ça, c'est peut-être un peu moins intéressant. Ça vient qu'une pochette, une étui de transport, mais ça reste quand même un gros appareil qui ne se replie pas tellement. Là. On peut évidemment tourner les oreilles à 90 degrés de... Bon, je sais pas pour les gens qui sont DJ de fin de semaine, j'imagine, j'en ai aucune idée, mais ça permet de le ranger à plat. Sauf que ça se transporte pas aussi bien que certains casques qui se replient en 2. Je pense, entre autres, chez Sennheiser, on avait un Momentum 3 à un moment donné qui se repliait, qui faisait un petit étui.
Ceux qui regardent, j'ai mon Momentum ici.
Voilà. Qui est d'ailleurs très élégant, un des beaux casques, en plus. Pour le reste, pour l'écoute musicale, ainsi de suite, c'est, comme il n'y a pas d'insonorisation active, ça reste que c'est pas la meilleure qualité. Si vous êtes très mobile, ça pourrait être Il existe mieux, il n'y a aucun doute. Donc, évidemment, si vous parlez beaucoup au téléphone, vous parlez beaucoup dans des appels de travail, de bureau, avec une application comme Teams, comme Zoom, comme je veux dire Skype, parce qu'on parle plus jamais de Skype, là. ben, ça peut être un bel outil, surtout qu'à ce prix-là, où il est, là, c'est pas une grosse affaire, 120$. C'est tout à fait abordable, mais c'est pas non plus la qualité d'un appareil qui coûterait 400-500$. Donc, c'est vraiment une question de budget, mais bon marché, bon choix, pas rien à dire à part ça.
Pour voilà. Se retrouver à la maison, là, c'est une belle, belle, belle option. Quand tu mets le casque, maman travaille, quand ça te dit un peu les bruits de la rue, des trucs comme ça. Moi, juste travailler avec un casque d'écoute, ça m'aide à travailler dans ma bulle. Mm-hmm. D'avoir un micro comme ça que tu peux lever. Les gens l'oublient tout le temps. Je fais des cours, je fais des formations.
Oui, ben c'est ça, ça reste le gag.
On a le petit micro qui est levé pour ne pas déranger. Tu baisses le micro, ça active ton micro automatiquement. On adore ça. Mais c'est ça, il faut penser de le faire. Mais ça évite aussi de ça te permet de parler à des gens sans interrompre la présentation, voilà. Parler aux enfants sans te déranger comme ça.
Merci Pascal.
Merci Alain.
Ben, ça fait plaisir. C'est tout pour nous cette semaine. On va terminer là-dessus. Est-ce que tu... Ben, en fait, on va remercier, je vais le faire, Pascal.
Vas-y.
Remercier nos commanditaires parce que c'est tout le temps toi qui le fais. Bon. Hein? Plan Hub, le site de comparateur de prix dans les le sans-fil et l'Internet. TELUS, fournisseur sans-fil, justement. Et Jura qui fournit une dose généreuse de caféine directement dans ma tasse tous les jours. D'ailleurs, ma tasse est ici. Vous voyez, si vous remarquez ça sur YouTube, elle est énorme. C'est bon, un café de temps en temps. Je ne sais pas à quel point il y a des études qui se contredisent, mais semble-t-il qu'il y a des bénéfices tangibles pour la santé de boire du café. Donc, ne gênez-vous pas. On remercie C23, le groupe Cogeco, évidemment, l'édition numérique qui partage, qui distribue sur C23 Station FM notre émission. Claude Hébert et Jean-Christophe Ouellette à la mise en onde, parce que Claude est en vacances, puis ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas vu et je m'ennuie. Salut Claude. Jean-Christophe, pendant ce temps-là, fait de l'excellent boulot. Pascal, que je salue encore une fois. Merci d'avoir été avec moi comme chaque semaine, qu'on peut lire sur pascalforget.com, qu'on peut lire avec des plus gros caractères dans le bel âge, si j'ai bien compris.
Tout à fait.
Moi-même, vous pouvez voir, écoutez, je vais reparler de GPT-4 si vous voulez plus d'informations sur ce que je radote tous les jours. C'est dans le devoir que ça se passe. J'ai quelque chose sur le nouveau jeu Tetris en fin de semaine, je vous le dis tout de suite. Pas le jeu, le film Tetris,
c'est ça que
je
voulais dire. Parce que moi, Tetris, c'est mon jeu. Hein.
Là, ah, ben tu vas aimer le film, en fait.
Si jamais tu as des passes là, pour le voir à l'avance.
Ben, il y a sur l'Apple TV Plus, donc tu peux demander aux gens d'Apple. Je sais qu'il y a une flopée de nouveaux films. Il y a Super Mario qui s'en vient aussi. Il y a Gran Turismo. Il s'en passe des affaires dans le jeu vidéo dans les prochaines semaines. Je vais en parler plus dans le devoir. Allez voir ça, allez lire ça, c'est en fin de semaine. Pour le reste, on vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin d'hiver, début de printemps, parce que ça s'en vient la semaine prochaine. Nous, on va être de retour la semaine prochaine pour une autre tasse de tech, peut-être en direct de Vancouver. J'ai pas encore pensé à ça.
Oh, tiens-moi au courant.
Mais ben oui, certainement, parce que tu es le premier averti.
J'espère.
Entre-temps, n'hésitez pas, abonnez-vous. On est sur les plateformes de balado. Allez vous abonner. Vous ne manquerez rien de l'actualité technologique grâce à nous à une tasse de tech. Salut tout le monde.
Bye.
C'est 23.
Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur. Rien ne peut vous arrêter. Ah, sauf la construction. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Tundra 2024. Visitez achetermatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.